Europe 1.
Et si on parlait sport ?
Jacques Vendroux.
Et si on parlait de sport ? Et nous sommes en compagnie d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la France, maire du Havre. Et vous avez fondé en 2021 un parti politique, je crois savoir, qui est en train de prendre beaucoup d'importance et qui s'appelle Horizon. Voilà. Mais d'abord, monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter.
Oui, c'est
féliciter pourquoi ? Pour la montée du Havre, club historique, club doyen du foot français 1872, qui revient, je serais tenté de vous dire, enfin en première division.
Oui, et c'est une grande joie, mais je dois à l'honnêteté de reconnaître que je n'y suis pas pour grand-chose.
Même quand si, même un petit peu.
Oh, pas tant que ça, mais c'est vraiment très peu en vérité. Mais ça a été une grande joie au Havre parce que pendant très longtemps, on a été privé de cette élite. Il y a une petite quinzaine d'années, on avait passé une saison en Ligue 1. Et le Havre et le football, c'est une vieille histoire. Comme dans beaucoup d'endroits en France et comme dans beaucoup de villes qui ont une identité industrielle, il se trouve que, parce que nous on est très proche de l'Angleterre, le football a commencé ici, que le club du Havre est le plus vieux club français. Dans son hymne, il y a cette phrase à jamais le premier club français. C'est vrai que j'ai des copains qui me disent à juste titre qu'une montée en Ligue 1, quand ça fait très très longtemps qu'on est en Ligue 2, ça procure presque plus de joie intense qu'une victoire en championnat d'Europe. Voilà. Et on a fait la fête, on était très heureux. Et puis ils ont fait une saison assez exceptionnelle. L'équipe a fait une saison assez exceptionnelle.
Très honnêtement, ce club, il est quelque part exemplaire. Il fait penser au Racing Club de Lens. Il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de calme. Quand vous étiez en Ligue 2, il n'y a pas eu de sombre drame, etc. Vous avez traversé ces moments douloureux avec beaucoup de calme et sérénité. Et là, enfin, le grand bonheur revient. Et c'est important pour le foot français que le Havre soit en Ligue 1. C'est important.
Je suis d'accord avec vous et c'est élogieux de nous comparer à Lens. Parce que Lens, c'est un club assez exceptionnel. D'abord avec une ambiance incroyable. Enfin, et puis une ténacité, une capacité à toujours croire à ses chances et à se battre et à être solidaire, y compris quand c'est difficile. C'est assez extraordinaire. Et au Havre, oui, on est assez tenace. Le Havrais est tenace en général.
Vous lâchez rien.
Oui, mais peut-être parce qu'ici, c'est encore une fois, c'est une ville industrielle, c'est une ville populaire. On lâche pas grand-chose, non.
Mais c'est vrai que c'est une réussite formidable. Après l'arrivée, bien sûr, on va dire de Vincent Volpe, le propriétaire, Jean-Michel Roussier, le nouveau président, ouais. Luca Elsner, l'entraîneur, et surtout quelqu'un d'exceptionnel que je trouve brillantissime, qui s'appelle Mathieu Bonnemer, le manager général. Ils ont reconstruit doucement, mais sûrement, et surtout cette dernière saison, cette équipe du Havre, assez, c'est important.
Oui, l'équipe qui a été constituée sur le terrain était réjouissante et a fait une saison exceptionnelle. Et l'équipe hors du terrain, qui est moins spectaculaire, mais qui compte aussi, a réussi à bien se trouver. Et donc, Vincent Volpe, c'est un président étonnant, hein. C'est un Américain d'origine italienne qui parle avec un accent, qui parle très bien le français, avec un accent américain à couper au couteau, vraiment un très fort accent américain, mais qui vit en France depuis très longtemps, qui a épousé une Havraise, enfin une, elle fait Campoise, je crois, sa femme, et qui vit depuis très longtemps et qui possédait une entreprise qui était installée, dont le siège d'ailleurs avait des activités partout dans le monde, mais était installée au Havre. Et donc il est très attaché au territoire. C'est vrai que c'est un actionnaire américain, mais en fait c'est un local.
Justement, parlez-moi un peu de lui parce qu'en fait on le connaît pas très bien. Je ne dis pas qu'il n'est pas médiatique, mais il ne fait pas partie de ce qu'on appelle des gens très connus dans le football français. Et pourtant, il a fait beaucoup et il a beaucoup investi au Havre.
Il lui est arrivé ce qui est arrivé à quelques-uns de ceux qui, ayant investi dans le football, alors même qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, ont été totalement happés par ce monde. Et quand vous parlez maintenant avec Vincent, il connaît le football, il vous parle des gars, de toutes les équipes, alors que franchement, il y a 15 ans, quand on parlait avec lui de football, il ne connaissait rien. C'était pas son problème. Il n'allait pas au stade. Il n'était pas un spécialiste de football. Donc, il a vraiment été happé par ce monde. Il y a investi son argent. Et il a eu l'intelligence, qui est souvent l'intelligence de gens qui ont bien réussi dans le monde des affaires, de considérer qu'il pouvait apporter du capital, il pouvait apporter une incarnation, mais il fallait qu'il aille s'entourer de vrais bons spécialistes dans chacun des domaines qui, eux, connaissaient leur métier. Et c'est ce qu'il a fait patiemment, cas un cas à, parfois en tâtonnant, jusqu'à la saison dernière où là vraiment tout s'est aligné et il a réussi à aligner sur le terrain et en dehors du terrain, je vous dis, deux équipes si j'ose dire, ou une équipe assez exceptionnelle.
Alors on va évoquer tout au long de cette émission eh bien, plusieurs thèmes dans ce samedi. D'abord, je voudrais vous poser cette première question, Monsieur le Premier ministre. Quelle est votre passion et votre approche sur le mot sport? C'est vague, je reconnais, mais on vous a rarement entendu avec du temps sur une antenne de radio ou de télévision. Et pourtant, bah, vous aimez ça. Et pourtant, je crois savoir que vous aimez ça.
Moi, j'adore le sport. J'ai toujours aimé ça. Ce qui est assez amusant, c'est que moi, je suis né dans une famille de professeurs de français. Mon père était professeur de français, ma mère aussi. Ma sœur l'est devenue, et dans laquelle la grande affaire, c'était la littérature. On aimait les livres, on parlait de livres, on avait des livres, on achetait des livres, on discutait des livres. C'était ça la grande passion familiale. Le grand point central de la vie familiale, c'était les livres, vraiment. Bon, et c'est formidable, et j'ai conservé ça et j'adore ça. Et mon père n'était pas du tout sportif. Il était malade depuis qu'il était jeune, il aimait bien marcher, il aimait bien nager. Il n'aimait pas le sport. Sauf l'athlétisme qu'il regardait parfois aux Jeux Olympiques. Curieusement, pour des raisons qui m'échappent, il avait une espèce de bienveillance et d'admiration, peut-être parce qu'il avait une culture classique, mais une espèce d'admiration pour l'athlétisme. Ça, c'est vrai. Et un peu pour la lutte et pour la boxe. Mais sinon, il détestait le football, parce que son père, lui, adorait le football et il ne s'entendait pas bien avec son père. Il ne comprenait même pas comment on pouvait jouer au rugby. Enfin, il n'aimait pas le sport. Ma mère... aucune espèce d'intérêt, vraiment ça n'a jamais intéressé. Et moi, tout petit, mais vraiment tout petit, à l'école, j'ai été pris de passion pour le foot. Et je jouais au foot, et tous les jours je jouais au foot. Et dès que je sortais de l'école, j'étais un bon élève, dès que je sortais de l'école, mon problème c'était où est-ce que je vais jouer au foot et avec qui je vais jouer au foot. Et tous les soirs je jouais au foot et pendant toutes les récré je jouais au foot. Et j'adorais ça. Et mes parents me regardaient en étant à la fois pas du tout consternés, mais en comprenant certainement pas quel était le ressort de cette passion et en ne m'interdisant jamais d'en faire et en me laissant m'exprimer parce qu'ils étaient très libéraux et très aimants. Et voilà. Et donc, je me suis passionné pour le foot et puis ensuite pour le tennis que j'ai beaucoup pratiqué aussi et puis pour plein de sports différents à des époques différentes sans jamais détester ceux que j'avais pratiqués. Je continue à aimer le foot, je continue à aimer le tennis. J'adore le badminton. On pense que c'est hyper physique le badminton, c'est un sport tactique, physique, de vitesse, de précision, c'est un sport extraordinaire. J'ai beaucoup joué au tennis de table aussi. Et puis il y a des sports que je n'ai pas pratiqués parce que je n'avais pas le physique et un peu l'angoisse quand j'étais plus jeune. Donc je n'ai jamais fait du rugby. Maintenant j'adorerais, mais j'ai plus l'âge. J'ai fait un entraînement de rugby quand j'étais étudiant. Et je ne me suis pas mis à la boxe quand j'étais étudiant, probablement parce que ça m'impressionnait. Ça, j'ai commencé plus tard. Mais bon, pour répondre à votre question, le sport, je trouve que c'est formidable, nécessaire. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, et je voudrais dire ça à tous les gens qui valorisent les études, qui valorisent le travail intellectuel, qui valorisent les compétences techniques, un sportif de bon niveau, de haut niveau, il arrive à mobiliser des capacités exceptionnelles. Et moi, je prétends que, probablement comme les Anglo-Saxons, il faut prendre les sportifs au sérieux. Quand tous les jours, on va à l'entraînement, quand tous les jours, on essaie de se dépasser, quand tous les jours, on regarde ce que font les autres pour essayer d'être meilleurs, on développe des qualités humaines, personnelles, qui doivent être prises au sérieux. Et voilà. Et donc, non seulement j'aime ça, non seulement je trouve que c'est un spectacle formidable à regarder et que c'est une activité merveilleuse à pratiquer, mais en plus, je pense qu'il faut beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui prendre le sport au sérieux.
Et si on parlait de sport, vous êtes sur Europe 1, notre invité, Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la France, maire du Havre, fondateur du parti politique Horizon. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut considérer qu'un homme politique, de votre envergure par exemple, on peut considérer que vous êtes aussi un sportif de haut niveau?
Non, je ne suis pas du tout.
Vous êtes obligé quand même de vous préparer. Vous êtes obligé de vous faire attention. Vous êtes obligé de... Vous faites un grand débat télévisé ou une grande émission de radio ou un grand meeting. Vous êtes obligé quand même de rentrer dans une préparation mentale et quelque part physique, qu'on le veuille ou non. Non?
Oui.
Un peu quand même.
Un peu. Mais un peu. Disons qu'il y a des choses, il y a des choses qui s'approchent. Il y a d'abord le sens de la compétition, qui est incontestable. Il y a la tension entre le sport collectif et le sport individuel. Quand vous êtes de la politique, vous pouvez être tenté d'essayer de briller tout seul, alors qu'en vérité, c'est un sport collectif. Bon, bah, n'importe qui a joué dans une équipe de foot sait que c'est une menace et que c'est un risque permanent qu'il faut essayer d'avoir en tête. Vous pouvez avoir la nécessité de se préparer physiquement. Et il y a une préparation physique, parce qu'une campagne, c'est un exercice physique, c'est très fatigant, parce qu'il faut... Quand vous avez une longue émission de télévision très tendue, bah, faut faire attention à ce que vous mangez avant. Le sucre lent n'est pas totalement inutile. Donc, bien sûr, il y a cette dimension-là. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Et faut pas exagérer non plus la comparaison. On pourrait dire aussi qu'à la boxe, il faut savoir taper, encaisser, éviter... feinter, tout ça peut être pratique en politique.
Alors justement, parlez-moi de la boxe, parce que justement, vous venez de faire une allusion, vous me tendez une perche. La boxe est quelque chose que vous aimez beaucoup, comme le football, comme le ping-pong, vous aimez la boxe.
J'aime ça. Ouais,
quand je suis rentré dans votre bureau ici au Havre, il y a une photo de Mohamed Ali.
Il y en a plusieurs même.
Il y a des livres sur Mohamed Ali.
Je suis fasciné par le bonhomme, je suis fasciné par sa boxe, je suis fasciné par le bonhomme, qui est fascinant. Parfois exaspérant, il faut bien le reconnaître. Parfois épuisant, parfois exaspérant. Mais aussi incroyablement charismatique, courageux, intéressant, drôle, tellement drôle. Et puis, je suis fasciné par sa boxe. Je suis fasciné par l'espèce d'équilibre incroyable entre sa puissance et en même temps son incroyable capacité à feinter, à éviter, à esquiver. Qui est merveilleuse. C'est un showman et en même temps, c'est un type sérieux.
Pourquoi ce champion vous impressionne autant? À quel moment vous l'avez découvert?
Assez tard. Mais d'abord, j'ai découvert assez tard la boxe. Ça me passionnait pas du tout quand j'étais adolescent ou quand j'étais jeune adulte. Je trouvais ça bien. J'ai aimé des films de boxe. Vous voyez, j'ai aimé... adolescent, j'ai vu toute la série des Rocky. Et je continue à penser que le premier est excellent, vraiment excellent d'ailleurs. Donc j'aimais bien, j'ai adoré Raging Bull, formidable bien ce sûr. Film. Bon, donc j'aimais bien l'ambiance, mais le sport en lui-même, moi j'avais la trouille d'y aller. Quoi. Et puis un jour j'y étais, en 2014, donc assez tard, j'avais 43 ans quand j'ai commencé, 44 ans même quand j'ai commencé, et ça a été un coup de foudre. Et j'aime la pratiquer. Alors, je vais parfois voir quelques combats. J'adore regarder sur les réseaux sociaux ou sur mon iPhone tous les combats que je peux regarder de boxeurs que j'admire. Mais je suis un amateur qui regrette d'avoir commencé la boxe à 44 ans et qui en a 52 aujourd'hui, qui est capable de faire 2 ou 3 reprises de suite et 2 ou 3 entraînements par semaine. Mais c'est dur, c'est vachement dur. Physiquement, c'est vachement dur.
Mais vous en avez besoin. Maintenant, vous en avez besoin.
Ouais,
vous l'avez découvert
ouais.
sur le tard,
ouais.
Sauf que maintenant, ça fait partie de votre ADN quelque part.
En tout cas, je prends plaisir à pratiquer. J'aime l'ambiance, j'aime l'exigence que ça impose et ça me fait du bien. Alors clairement, ça me fait du bien, ça c'est sûr.
Physiquement, moralement ?
Physiquement, moralement, ça me permet de rester calme à peu près en toutes circonstances. Mais comme tous les sports de combat, arts martiaux ou sports de combat, il y a une maîtrise de soi-même qui va avec, tout le monde le sait, tous les gens qui ont fait du karaté, du judo, tous les sports de combat vous imposent à la fois, vous permettent à la fois d'avoir beaucoup plus confiance en vous et en même temps d'être beaucoup plus respectueux et beaucoup plus humble vis-à-vis des autres. C'est un mélange bizarre et je vois bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vois bien que je croise des gens, quand je leur dis que je fais de la boxe, ils me disent mais pourquoi cette violence, pourquoi cette agressivité et je leur dis mais en fait c'est un sport de maîtrise et quand on sait se battre, quand on sait combattre, quand on commence à savoir donner des coups, pas simplement à taper comme une brute, mais à savoir donner des coups, à avoir une technique, à avoir une agilité, une précision dans ses coups, une capacité d'enchaînement, et ben on a beaucoup plus confiance en soi et on est en même temps beaucoup plus respectueux des autres parce qu'on voit tout le chemin qui reste à faire pour devenir meilleur. Et ça, la boxe m'a permis ça. Ouais.
Et ça, pas, il y a quelque chose à voir avec la politique quand même, dans ce que vous dites.
Ouais.
Moi, je vous écoute
je vous dise un truc.
Religieusement.
Il y a toujours quelque chose à voir avec la politique.
Non, mais je veux dire, mais là, vous me parlez de la victoire, vous me parlez de la défaite, vous me parlez de vous entraîner, etc. Bon, il y a quand même un point commun avec la politique, de haut niveau, hein, attention.
Non, non. Amateur ou pas. Oui, il y a un point commun, parce que c'est une pratique exigeante. C'est difficile d'être totalement désinvolte quand on fait de la boxe. Vous voulez le type qui se dit « Ouais, j'en fais de loin en loin, et puis je ne suis pas concentré quand j'en fais. »
Je vous coupe, monsieur le Premier ministre, on ne peut pas non plus être trop désinvolte quand on fait de la politique.
Bah, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est vrai qu'il y a cette proximité-là.
Alors justement, autre thématique dans cette émission, et si on parlait de sport sur Europe 1, notre invité Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre, où nous sommes, fondateur d'un parti politique important, Horizon. Quelle est votre vision sur le sport? Qu'est-ce que vous attendez du sport? Est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez du sport en règle générale sur le peuple français, sur le peuple havrais? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez leur inculquer?
Moi, je veux rien, mais ce que je vois
bien. Ce que vous souhaitez.
Je vois bien ce à quoi le sport peut servir. D'abord, je pense qu'il est bon pour la santé physique et psychique et morale. C'est bon de faire du sport. C'est bon pour soi-même. Rien que ça, ça justifie qu'on en fasse et qu'on fasse découvrir la pratique du sport et qu'on encourage la pratique du sport. La deuxième chose, c'est qu'on pourra dire ce qu'on veut. Le sport, c'est toujours des règles. Parfois d'une très grande simplicité, parfois d'une très grande complexité. Mais c'est toujours des règles. Et donc, la pratique du sport, elle impose toujours de se confronter à des règles qui encadrent. C'est jamais mauvais de se confronter à des règles qui encadrent. Et ça fait du bien à beaucoup de monde de savoir qu'il y a des règles et que quand on ne les respecte pas, eh ben on ne peut pas gagner. Parce qu'on sort des règles et donc on ne gagne pas. Donc ça, c'est la deuxième chose qui me paraît utile. La troisième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui relie les gens dans le sport. Et parfois, il y a quelque chose qui les oppose. Le sport, ce n'est pas que bien. Ça n'est pas que un moment de communion fraternelle. Bien sûr que lorsque vous assistez à un match de rugby entre la France et l'Angleterre, alors que c'est le crunch et qu'on a très très envie de battre les Anglais, vous partagez une bière, vous avez des Anglais à côté de vous, vous êtes dans le stade, vous dites good game, vous vous chambrez comme... Et tout se passe bien, c'est un moment extraordinaire de fraternité, j'adore ça. Bon, le foot, c'est pas pareil dans les stades, c'est parfois peu glorieux. Donc il ne faut pas penser que le sport par nature y relie. Mais souvent il relie. Souvent il permet de créer une cohésion. Un rapprochement entre des gens qui sinon ne se connaissent pas. Et ça a beaucoup de valeur dans la société dans laquelle on vit. Donc je pense qu'il faut développer la pratique du sport. Je pense notamment que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. À l'école,
fait assez à l'école,
non,
déjà
je
au départ
pas, Je crois pas. Je pense qu'on ne pratique pas assez le sport. D'ailleurs, je pense qu'on ne pratique pas assez les arts à l'école. Et c'est dommage parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pratiquer le sport et les arts, c'est la même chose, la musique, le dessin, mais il faut le faire, en fait, si on veut le faire sérieusement, il faut le faire à l'extérieur de l'école. Et donc l'école n'est pas le lieu sérieux pour la musique, pour le dessin ou pour le sport. Ça se passe un peu à l'extérieur. Et c'est dommage, parce qu'on devrait avoir, de la même façon qu'on est exigeant sur les mathématiques, sur le français, sur l'histoire, et qu'on a raison de l'être, et qu'on doit l'être même plus encore sur ces matières, on devrait être exigeant sur le sport. Il faut être exigeant sur le sport.
Qu'est-ce que vous souhaitez, justement? Vous avez forcément des vœux. Je sais que c'est un sujet qui est compliqué, qui est récurrent, mais l'idéal pour vous par rapport au sport à l'école, par rapport au sport au lycée, par rapport au sport dans les universités, quelle est pour vous la solution idéale?
Continuer à faire en sorte que l'école permette à des jeunes gens et à des jeunes filles de découvrir des sports et de ne pas être prisonnier d'une vision du sport qui repose sur deux ou trois grands sports nationaux. Ça me paraît important. Et deuxièmement, faire en sorte que les qualités qui se révèlent dans l'activité sportive soient mieux prises en compte dans l'évaluation des élèves. Je vous dis un truc, mon père n'aimait pas le sport, vous vous souvenez, je vous ai dit ça tout à l'heure. Il me racontait, il était à la fin de sa vie professionnelle, il était principal d'un collège. Et il m'a dit un truc qui m'a toujours frappé. Il m'a dit, quand on se posait des questions sur un élève, parce que dans telle matière il était bon, dans telle autre il n'était pas bon, et on sentait qu'il était doué, mais en même temps ça n'allait pas. Celui qui avait en général l'avis le plus pertinent, c'était le prof de sport. Parce que la façon dont on est dans une activité sportive dit énormément de choses de ce qu'on est, justement. De qui on est, de nos appréhensions, de nos aspirations. Et donc, voilà, je pense que les qualités qu'on révèle dans l'activité sportive doivent être mieux prises en compte dans le projet pédagogique, dans le projet éducatif. Pardon, c'est très sérieux de le dire comme ça, mais je le crois très sincèrement.
Non, mais ce qui est important aussi, et vous l'avez dit dans la vie de tous les jours, vous l'avez répété, d'ailleurs tout le monde le confirme, il faut plus de sport dans notre société. C'est ça qui est important.
Il ne faut pas
non plus exagérer, non. Mais il en faut plus.
En tout cas,
je vous donne un exemple, monsieur le Premier ministre. Par exemple, dans des grandes villes comme Marseille, comme Paris, sans doute pas au Havre, il n'y a pas assez de stades. Il n'y a pas assez d'endroits pour que les gamins puissent aller faire un petit tournoi de foot, un petit tournoi de handball, un petit tournoi de basket. C'est un problème quand même. Vous le savez mieux que moi.
C'est sans doute beaucoup plus vrai à Paris qu'au Havre, mais ça reste vrai au Havre. Vous savez, il y a plein de clubs sportifs au Havre qui considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment accès à des terrains, parce qu'on en a beaucoup, mais enfin, il y a une demande qui est considérable.
Enfin, c'est un problème de grande ville.
C'est un problème de grande ville dense, parce que c'est vrai que le coût des... Enfin, oui, bien sûr, ça, je comprends très bien. Mais... Bon, n'oublions pas non plus que le sport, ce n'est pas simplement des équipements sportifs. Hein. Le sport, l'activité physique, ça peut être aussi des pratiques. Ça peut être le vélo sur les routes, ça peut être la marche, ça peut être la course à pied, ça peut être des formes de foot ou de jeux collectifs de volley qui n'exigent pas des équipements sportifs. Le sport, ce n'est pas simplement les associations ou les clubs. Ce n'est pas simplement le tournoi avec le terrain qui est aux normes. C'est plus que ça, le sport. Moi, je me suis au moins autant éclaté en jouant au foot sur des pelouses qui n'avaient rien à voir avec des terrains et qui me faisaient pratiquer un sport et aimer le sport que quand je faisais du foot que j'étais petit en club. Il faut pas... Le sport, ce n'est pas que la compétition, ce n'est pas que les clubs. C'est aussi le jeu. C'est aussi le jeu collectif.
Oui, mais monsieur le Premier ministre, vous savez aussi bien que moi que le sport est une porte de sortie. Magnifique. Vous avez des millions de téléspectateurs qui vont regarder un match de rugby, qui vont regarder la finale de la Ligue des Champions, qui vont regarder le Paris Saint-Germain, qui vont regarder les champions du monde de handball, etc. Qui vont regarder des compétitions à la télé ou en écoutant Europe 1, etc. C'est une porte de sortie, le sport, qu'on le veuille ou non, pour les Français, quelquefois en difficulté. Ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin d'aller au Stade de France. Ils ont besoin d'aller au Parc des Princes. Ils ont besoin de venir ici au Stade de l'Océane.
Mais ça c'est la dimension spectacle que vous soulignez. C'est-à-dire spectacle au sens très noble. Hein. Une finale, un grand match de tennis, une grande opposition, ça peut être une tragédie, ça peut être un moment de gloire. Et c'est vrai que ça suscite de l'émotion, de la fierté, parfois de la colère ou de la déception. C'est le sport, c'est la glorieuse incertitude du sport et c'est très bien. Mais ça n'est pas que ça. Le sport, c'est d'abord et avant tout une pratique. Il faut que ce soit une pratique. Ça ne peut pas être simplement les autres, les pros. Et on regarde les pros. C'est quand même... Vous voyez, par exemple, le foot. Moi, j'adore le foot. Mais il ne faut quand même jamais oublier que même quand il y a des règles, même quand il y a de l'argent, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, mais peut-être qu'il y en a un peu trop, honnêtement. N'empêche que derrière tout ça, il y a d'abord et avant tout un jeu. Une émulation collective qui comment est-ce qu'on fait pour gagner avec des règles simples et voyez, j'adore le sport, j'adore le foot, mais je ne supporte pas sur les terrains, je supporte pas, c'est comme ça, peut-être parce que je suis un vieux con, hein, mais je supporte pas sur les terrains les comportements qui sont totalement antisportifs. Pour moi, le sport, c'est du fair play,
là,
c'est de l'élégance.
Des joueurs.
Bah ouais, bien sûr. Et parfois
et même,
des supporters.
Justement.
Et parfois des supporters.
Là, vous parlez des joueurs. Ouais. Et ça, vous avez sans doute complètement raison. Mais il y a un autre sujet aussi, parce que vous me tendez une perche. Le problème des supporters dans le football. C'est un problème qu'on n'arrive pas à régler définitivement.
Bah,
on n'arrive pas. Il y a toujours des drames, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des embrouilles,
oui,
toujours,
il y a ça,
toujours.
Oui. Et alors, il y a quand même des pays où on a fait des avancées. Hein. Les Anglais avaient un problème terrible dans les années 80 et au début des années 90. Et je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais enfin, ça va nettement mieux. Avec des règles d'une très grande dureté sur les comportements qui ne sont plus acceptés aujourd'hui. Hein. Quand quelqu'un fait le con, il est dégagé, interdit de stade assez vite et pendant longtemps. Donc, je trouve ça très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut faire.
On n'est pas assez sévère ?
On est... En tout cas, on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Et donc, je serais ravi d'en discuter avec des gens qui ont des idées sur ce qu'il faut faire. Moi, je prétends pas avoir les solutions. Je constate qu'on n'a pas encore vraiment trouvé la solution. Je constate qu'à la fin de saison dernière, ce qu'on a vu à Ajaccio était lamentable. Et c'est arrivé à Ajaccio, ça aurait pu arriver ailleurs. Mais c'était lamentable. Bon, voilà. Donc, on peut pas laisser prospérer ce genre d'attitude, de discours. Et on a vu ce qui se passait en Italie avec des injures racistes. Une honte, franchement une honte. Donc il faut quand même être parce qu'on aime le sport, être exigeant avec le sport, avec les sportifs et aussi avec les gens qui participent au spectacle, qui sont dans le stade.
Et si on parlait de sport, et nous sommes en compagnie d'Édouard Philippe, votre passion pour le sport, elle est vraiment indéniable. Il y a des grands événements qui arrivent là, notamment la Coupe du Monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre. C'est très long. Quand vous étiez Premier ministre de la France, vous avez participé bien sûr en réunissant les différentes personnalités à Matignon. Vous êtes investi aussi pour cette Coupe du Monde de rugby pour qu'elle soit une grande réussite.
Ben, c'est-à-dire que la possibilité quand on est à la tête d'un gouvernement ou quand on est français...
Et Premier ministre.
Non, mais de vivre dans un pays où on a la possibilité d'organiser des événements comme ça, des championnats d'Europe, des Coupes du Monde de football, des Coupes du Monde de rugby. Mais c'est un truc extraordinaire, parce que c'est des fêtes qui sont extraordinaires. Et donc, on a cette capacité-là, il faut en profiter. Donc oui, on était à fond derrière la candidature française, et qui a d'ailleurs remarquablement fonctionné. Elle était très bien pensée, la candidature française pour la Coupe du Monde française, enfin pour la Coupe du Monde de rugby en France cette année.
Et les Jeux Olympiques.
Et les Jeux Olympiques.
Vous êtes directement concerné, parce que vous avez participé à l'évolution de la création, de la candidature. Et ces Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet 11 août 2024.
Ouais.
J'imagine que vous allez assister à des compétitions, parce que vous aimez ça.
Oui. Je vais essayer. On a acheté, la ville du Havre achète quelques places pour les distribuer aux clubs sportifs. Qui interviennent dans des disciplines où il y a des champions havrais. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit aussi une fête au Havre. Mais on a une grande déception au Havre avec les Jeux Olympiques de 2024. C'est qu'on espérait être la ville qui accueillerait les épreuves de nautisme, de voile, comme ça avait d'ailleurs été le cas en 1924. Et donc on avait présenté un dossier. Et Marseille l'a emporté, donc les épreuves de voile auront lieu à Marseille. Comme il faut être fair play, je leur souhaite beaucoup de succès, mais c'est vrai que pour nous, ça a été une petite déception.
Notre invité, Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la France, maire du Havre, fondateur du parti politique Horizon. J'ai une question à vous poser qui m'interpelle. Vous êtes tellement sportif, vous aimez tellement le sport. Est-ce que dans une autre vie, vous auriez aimé être Alain Prost, Michel Jazzy, Marvin Hagler, Mohamed Ali, Marie-Josée Pérec, Amélie Mauresmo, Michel Platini, Zinedine Zidane? Est-ce que dans un rêve, en pleine nuit, vous êtes pris pour un buteur, pour une tennisman, un tenniswoman, enfin un grand champion, ou gagner un Grand Prix de Formule 1, ou gagner Roland Garros?
Écoutez, j'ai pour tous les grands sportifs que vous avez cités et pour beaucoup d'autres, une immense admiration. Pour Mohamed Ali, vous l'avez compris, évidemment. Pour Borg et pour McEnroe et pour Federer, une espèce d'admiration sans borne là aussi. J'ai aimé voir jouer Zidane, j'ai aimé le rencontrer, mais ça m'est arrivé deux fois dans ma vie et à chaque fois j'ai été impressionné par sa gentillesse, par sa simplicité et vraiment j'ai été complètement charmé. Mais à la fin de la fin, une fois qu'on a dit tout ça, moi quand vous me parlez de sport et quand vous me parlez de football, immédiatement je reviens comme beaucoup de gens de ma génération à 82, à 84, à 86. Et pour moi, la figure, c'est Platini. Et il se trouve que j'ai pour lui une estime et une admiration infinie qui ne passera jamais. Jamais. J'ai eu la chance, il y a deux ans, de déjeuner chez lui. Il m'avait très gentiment, après une émission où j'avais dit tout le bien que je pensais de lui, très gentiment.
À Cassis.
Ouais, il m'avait invité à Cassis. Il y avait sa femme, il y avait son fils.
Christelle, Laurent.
Et on était en tout petit comité. Il a fait c'était le déjeuner familial où il me proposait de venir. Et
je peux vous dire qu'il s'en souvient comme si c'était hier.
Mais voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai fait des c'est un peu ridicule de dire ça peut-être. J'ai fait des déjeuners avec des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Mais ce jour-là, à Cassis, j'étais comme un dingue. Et on a parlé tranquillement, simplement, entre deux personnes qui aiment le foot, même s'il y avait un génie et un mauvais amateur. Et c'était formidable. Donc pour lui, Platini, c'est mon idole d'enfance et ça ne changera jamais, c'est comme ça.
Il y a environ un mois, vous avez joué au football, vous avez voulu rendre hommage à Christophe Revault, qui est une légende du Havre, qui a joué à Toulouse, qui a joué au Paris Saint-Germain, qui est parti trop vite, comme on dit. Vous avez joué dans le deuxième stade de la ville, le stade de la Cave Verte, qui est un stade historique. Et vous avez joué numéro 8, numéro 10. Vous avez joué au football, en tous les cas.
Moi, je joue plutôt milieu parce que...
Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi ? Vous pouvez le répéter.
Parce que devant, il faut être très rapide et très agile, beaucoup plus que je ne le suis. Derrière, il faut être très physique et beaucoup plus que je ne le suis. Et que bah, l'avantage de jouer en milieu, c'est qu'il faut plutôt une bonne endurance, plutôt une bonne vision du jeu et être relativement précis dans les ouvertures qu'on peut faire. Alors ça me va à peu près. Mais c'est vrai que c'était l'occasion de dire toute notre affection et toute notre estime à Christophe Revault, qui a été un grand gardien de but, mais qui, au-delà d'avoir été un grand gardien de but, était surtout un homme formidable, d'une gentillesse, d'une humilité, d'une simplicité là aussi. C'était un type formidable, Christophe Revault. Et il a beaucoup marqué au Havre parce qu'il entraînait, les gardiens, et tout le monde l'aimait. Et voilà. Donc j'étais heureux de pouvoir dire mon affection pour lui devant sa famille et puis devant tous les Havrais qui l'ont vraiment. Hein. C'était un personnage. Il avait une trogne en plus avec cette tête. Là, il avait plus de cheveux. Alors, en plus, moi, ça me le rend encore plus estimable. Vous imaginez bien. Mais il avait cette force et en même temps cette gentillesse. C'était un colosse dur, mais dont tout le monde voyait qu'il avait le cœur incroyablement tendre. C'était formidable. C'était un type super.
Puisqu'on parle du Havre, je voudrais qu'on rende hommage à deux présidents. Jean-Pierre Hureau, dans un premier temps, qui est une légende ici, qui était l'un des plus grands présidents du foot français, au même titre que Claude Bess, que Roger Rocher, que Francis Borelli, que Jean-Louis Campora, et j'en oublie bien sûr Michel Denisot. Il a fait partie de ce qu'on appelle, dans une autre vue, des hauts dignitaires du football français.
Oui, avec beaucoup de classe. C'est vraiment un vieux monsieur, Jean-Pierre. Je le dis avec beaucoup de tendresse, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Jean-Pierre, quand il n'était pas président du club de foot, il était patron d'un restaurant au Havre que tout le monde connaît, qui s'appelle Paillette, qui est une taverne. Et il avait cette capacité à accueillir les gens, quel que soit le milieu social dont vous étiez issu, quel que soit votre âge, il y avait de l'autorité, un tout petit peu de distance, mais une très grande bienveillance, une très grande bonne éducation. C'était un type déterminé qui essayait de faire en sorte que les gens en face de lui révèle le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est pour moi une qualité assez exceptionnelle. Et il a aimé le hack qu'il a fait traverser des passes difficiles parfois. Il a aimé l'équipe de France. Et moi, j'ai vu par exemple quand Zidane est venu jouer avec les anciens du Real au Havre il y a quelques années, j'ai vu en accueillant Zinedine Zidane à l'aéroport. J'étais avec Jean-Pierre Hureau. Je lui avais dit, viens avec moi, parce que moi, je suis impressionné. Je suis tout seul avec Zinedine Zidane. Toi, moi, il te connaît. Bon, bref. Et donc, on y a été tous les deux. Et j'ai vu la façon dont Zinedine lui parlait, avec estime et avec respect. Et je crois que c'était ça qu'il crée.
Ce qui est important aussi dans votre passion, c'est que les Français aiment le sport. C'est votre avis aussi ? Je crois qu'on est un pays sportif. Mais peut-être qu'on n'en fait pas encore assez.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai vu dans ma vie, d'homme, j'ai vu les Français passer ou les équipes françaises passer de gens qui, d'équipes qui aimaient le sport à des équipes qui gagnent. On l'a vu en basket, on l'a vu en handball, on l'a vu en foot, bien entendu. Il y a une capacité du sport français à exceller qui est réelle, qui montre qu'il y a quand même une organisation associative, des clubs, une sélection, une capacité à faire progresser, qui sont assez remarquables. De ce point de vue-là, on est très sportif et de ce point de vue-là, on a quand même, il faut bien le reconnaître, plutôt bien réussi. Après, encore une fois, est-ce que les Français font assez de sport ? Est-ce qu'ils découvrent assez de sport ? Est-ce qu'ils sont capables de pratiquer des sports suffisamment différents? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient aimer tel sport? Là, je crois qu'on peut faire mieux. Je crois qu'on peut faire mieux.
Et pourquoi on ne fait pas mieux?
Parce que c'est difficile de tout faire bien, sans doute. Donc, on a probablement besoin d'un petit peu plus de temps, qu'on a probablement besoin d'imaginer d'autres structures, de changer peut-être la place du sport à l'école, de ne peut-être pas enfermer le sport dans les clubs. Bon, au Havre, on a un programme dont l'objectif est de développer la pratique sportive en considérant qu'une ville, ça peut être aussi un terrain de sport. Quand vous avez des marches, quand vous avez un front de mer, quand vous avez des bassins, comme c'est le cas au Havre, quand je dis qu'on a des marches parce qu'on a une ville haute et une ville basse, une falaise qui sépare la ville haute et la ville basse au Havre, eh ben, vous avez en fait un terrain de sport. Et faire du sport en ville, c'est aussi se faire du bien physiquement, moralement. Donc il faut que les villes deviennent des terrains sportifs propres à la pratique de sports différents.
Est-ce que vous savez que c'est le général de Gaulle et son premier ministre, Michel Debray, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, qui a exigé que dans certaines villes, il fallait beaucoup de piscines?
Eh ben,
il a été le détonateur, entre guillemets, où il a obligé des municipalités à construire des piscines.
On a au Havre, sur le cours de la République, une piscine assez magnifique, qui est une des premières piscines publiques de France, qui a été construite dans les années 30 et qui est superbe, parce que vous savez, c'était l'époque où on faisait pas forcément beaucoup d'équipements publics, mais alors on les faisait bien. Et donc, il y a une façade en marbre, il y a des statues d'un artiste qui s'appelle Saladin, qui sont absolument formidables. C'est un palais républicain. Ben, c'est une piscine publique. Elle a été ouverte à la fin des années 30. Et puis ensuite, elle n'a pas fonctionné longtemps parce que les Allemands ont mis des canons anti-aériens sur le toit de la piscine. Bon, donc évidemment, on ne pouvait pas s'y baigner. Mais ce développement de la natation, on est ici, il y a la mer ici. Il y a plusieurs kilomètres de plage au Havre. Eh bien, n'empêche que pendant très longtemps, les gens ici, ils ne savaient pas nager. Et donc, faire en sorte qu'on crée des piscines, faire en sorte qu'on crée des équipements sportifs pour donner le goût, pour leur permettre de découvrir une activité sportive nouvelle, c'est vachement important. On le fait bien. Les jeunes Français qui vont à l'école, ils vont à la piscine. On s'assure qu'ils apprennent à nager. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens qui savaient nager. Donc, on va vers le mieux. Ça prend du temps et on a encore du chemin à faire.
Et si on parlait de sport, vous êtes sur Europe 1, notre invité, Édouard Philippe. Je reviens sur votre culture sportive. Je crois que l'ancien premier ministre était Jacques Chaban-Delmas. Il adorait le sport.
Oui.
Il jouait au tennis régulièrement. Il a joué au rugby au plus haut niveau. On a l'impression quelque part que vous faites partie de ces rares hommes politiques qui aiment vraiment, vraiment le sport. Et en plus, de bien le connaître. Parce qu'il y a une différence entre un Premier ministre qui va assister à la finale de la Coupe de France, qui est très content d'y aller, et un Premier ministre qui va à la finale de la Coupe de France de football et qui s'en fout complètement. Vous savez que ça a existé dans une autre vie. Vous le savez. Enfin, vous ne pouvez pas me le dire, mais vous le savez.
Moi, je me souviens de cette distinction marrante qu'on faisait entre Jospin et Chirac. On disait que Chirac n'aimait pas le sport, mais il aimait les sportifs, alors que Jospin, il n'aimait pas forcément les sportifs, mais il aimait bien le sport. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que la formule est marrante. Et après tout, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que j'aime bien ça, je ne m'en cache pas. Je ne le clame pas non plus. Je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous, mais ce n'est pas non plus le sens de la vie.
Est-ce que vous êtes arrivé, quand vous étiez Premier ministre, par exemple, de la France, ou même maire du Havre, est-ce qu'il vous est arrivé de changer votre emploi du temps parce qu'il y avait un grand match de foot, grand match de rugby ou une grande compétition?
Oui, ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé?
Oui. Ouais, mais je ne sais pas si j'ai le droit
Donnez-moi
de vous dire.
Donnez-moi un exemple. Ah oui, vous pouvez y aller.
Écoutez, je vais vous le dire. Ça m'est arrivé pendant la Coupe du Monde de football.
Laquelle ?
Celle de 2018. J'étais Premier ministre. Et en 2018, la Coupe du Monde est organisée. Donc, et j'avais un rendez-vous avec l'émir du Qatar.
Ah, justement.
Qui était en visite officielle en France. Et qui déjeunait à l'Élysée. Et le match de l'équipe de France commençait, je crois, vers 16h, je crois. Moi, j'avais prévu de regarder le match. C'était en juillet, j'avais un peu moins de travail, puis j'avais envie de regarder le match. Puis, bon, voilà. Donc, j'avais prévu de regarder le match. Mais enfin, évidemment, j'avais ce rendez-vous de 15h à, j'espérais, 16h moins 10, avec l'émir du Qatar. Et comme c'est un boulot, on ne peut pas rater ça. Il peut arriver parfois que quand on déjeune avec le président de la République, on soit un peu en retard. Bon, et donc à 15h, pas d'émir. À 15h10, pas d'émir. Et je me dis, la vache, le temps de le voir, je vais rater la première mi-temps. 15h30, pas d'émir. Donc je suis un peu emmerdé, il faut bien reconnaître. Et puis à 15h45, on me dit, il est parti de l'Élysée. Bon, je me dis, tant pis, mes fils qui étaient là ce jour-là, on ne va pas regarder le match ensemble, ça me désole, mais c'est comme ça, la France avant tout. Arrive le véhicule officiel, arrive mon invité, je le salue, et je vois bien, et je sais qu'il aime le foot, et je vois bien que... Et donc, on se dit, ah, vous savez qu'il y a un match de foot de l'équipe de France à 16h. Je dis, bah oui, oui, bien sûr. Il se trouve que mes enfants sont là et que j'avais prévu de regarder. Et il me répond, eh ben moi aussi, mon fils est là et j'avais prévu de regarder le match avec lui. Et nous sommes convenus, tous les deux, de faire une rencontre rapide au sens où elle a duré 5 minutes et où on s'est dit qu'on allait se revoir, mais que l'essentiel, c'était quand même plutôt de regarder le match de foot. Ça n'a pas mis en péril les intérêts de la France. Je pense même que ça a créé une relation particulière. Et j'ai pu regarder le match que la France a gagné.
Vous avez regardé la Coupe du Monde au Qatar ?
Oui, bien sûr.
Vous ne l'avez pas boycotté ?
Non.
Dès le départ, c'était clair. Vous l'avez dit d'ailleurs.
Non. J'y suis pas allé. On m'a proposé d'y aller, j'y suis pas allé. Mais j'ai regardé les matchs. J'ai été heureux de les voir. J'ai été enthousiaste quand on a bien joué. Désespéré pendant les 75 premières minutes de la finale. Où j'ai rarement vu une équipe composée de types aussi fort passer autant à côté de son sujet. Et puis alors après, il y a eu les 15 dernières minutes, la prolongation, et là c'était terrible.
Le maillot bleu de l'équipe de France de football, de rugby, de basket, de handball, le maillot des Jeux Olympiques, le maillot qui aura une couleur particulière bleue, je veux dire, pour les prochains Jeux de 2024. La valeur du maillot bleu, vous en avez souvent parlé et vous y tenez beaucoup, le respect du maillot.
Moi, je suis... Dès lors qu'on est...
Est-ce que je peux dire que vous êtes très cocardier ?
Je ne sais pas si je suis cocardier. Je suis évidemment cocardier, bien entendu. Je suis capable de beaucoup de mauvaise foi quand il s'agit de défendre mon pays. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais...
Dans tous les domaines.
Oh, c'est possible. Mais j'ai une vraie détestation de ce que j'appelle l'anti-jeu ou les comportements misérables dans le sport. J'aime pas la triche non plus. Alors quand c'est des Français qui se conduisent pas bien, j'ai honte. Voilà. Donc je trouve que le sport, il faut être élégant dans le sport. Ce que je veux dire, c'est que il y a une forme d'exemple qu'on doit donner. Et moi, un de mes héros préférés en littérature, c'est Cyrano de Bergerac. Et Cyrano de Bergerac, son sujet, c'est pas forcément de gagner. C'est quand même plutôt de gagner, mais c'est pas forcément de gagner. C'est aussi d'avoir une forme d'élégance et de panache. Et j'aime les sportifs quand ils font pas de l'anti-jeu, quand ils font une faute, qu'ils la reconnaissent. Je trouve que c'est des moments qui sont extraordinaires. Ça arrive, c'est rare. Dans le foot, c'est rare. Mais ça arrive. Quand quelqu'un dit non, là, c'est vachement important. Quand on rend le ballon, tous ces moments-là sont importants aussi. Donc je suis cocardier, je défends mes équipes quoi qu'il arrive, je suis supporter du HAC quoi qu'il arrive, mais j'aime pas quand on montre pas les qualités du sport.
Est-ce qu'il y a des équipes que vous aimez bien en dehors du HAC, évidemment? Est-ce que vous avez de la tendresse pour Marseille, pour le Racing Club de Lens, pour le Stade Toulousain en rugby, pour La Rochelle qui a perdu en finale du top 14? Est-ce que vous avez d'autres équipes pour qui vous avez une tendresse particulière?
Oui. Il y a des équipes avec lesquelles j'ai moins de tendresse. C'est vrai. J'ai une vraie tendresse ancienne, mais qui vient aussi de mon enfance, pour Saint-Étienne.
Les Verts.
Ouais.
Les Verts de Larquet. Piazza, Kurkovic.
Ouais. Et j'ai une tendresse pour les clubs qui sont des clubs de supporters. C'est-à-dire Saint-Étienne et Lens, pour moi, c'est d'une nature différente. Bon, là, peut-être j'ai énervé plein de gens en disant ça, mais c'est d'une nature différente de beaucoup d'autres clubs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communion, d'engouement, de soutien indéfectible, qui font que ces clubs de villes, qui sont des villes moyennes, qui sont des clubs de villes qui en ont vu des vertes et des pas mûres, c'est le cas de le dire, de la désindustrialisation, de la pauvreté parfois, ils ont une fierté, ils s'assument en tant que tels. Je trouve que c'est des beaux clubs. Non, j'aime beaucoup Lens et j'aime beaucoup Saint-Étienne. Ouais.
Qu'est-ce que vous attendez dans l'avenir maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez sur le plan sportif ?
J'aimerais pouvoir vous dire que j'attends avec impatience que
la Coupe du Monde de rugby et que la France soit championne du monde.
Que le HAC se qualifie pour les coupes d'Europe à venir. Je suis prudent en la matière parce que je vois bien que la marche est haute et qu'il vaut mieux aborder la Ligue 1 avec une grande humilité. J'espère que le HAC fera une très très bonne saison l'année prochaine, ça c'est certain. J'ai très envie de voir Teddy Riner au JO, parce que le type est quand même... il est vraiment impressionnant. Il est sympathique en plus. Donc j'ai hâte de voir ça.
La France championne du monde de rugby aussi.
Ça aurait de la gueule aussi.
Ça aurait pas mal quand même.
Ça aurait de la gueule. Ouais, ça aurait vraiment de la gueule. Ça va pas être facile, mais ça aurait de la gueule.
Mbappé avec l'équipe de France Olympique aux Jeux de 2024.
Je sais pas si. Alors pour le coup, j'ai pas suivi. Je sais pas s'il en est question.
Il voudrait faire l'Euro et les Jeux.
J'ai vu qu'Antoine Griezmann était très candidat pour.
Mbappé candidat aussi.
Et ouais. Et ça me fait plaisir parce que j'aime bien Griezmann. Je trouve qu'il a une niaque et une finesse qui sont très attachantes. Je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. J'ai dû le croiser une fois après la Coupe du Monde, mais je trouve qu'il est attachant et on se dit que on irait bien boire une bière avec lui.
Merci, Monsieur le Premier ministre.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accordé. Je crois que c'est une grande première, une grande interview uniquement sur le sport, alors que vous êtes habitué à faire des grandes interviews à la radio, à la télévision, sur la politique, sur votre avenir, etc. Là, vous nous avez consacré près de 50 minutes. On n'a parlé que de sport. Et je vous souhaite, je vous le dis très clairement, le meilleur.
Merci beaucoup.